Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïk FM.
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm wild over honey child. Honey child's got me feeling funny.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission mensuelle de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, comme chaque mois, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Notre émission de ce soir sera consacrée à la sortie d'un double CD intitulé Confluence. Il y a le titre en hébreu également. D'ailleurs, je ne connaissais pas du tout le mot. J'ai cru déchiffrer Itmaz Guyot, je crois.
C'est ça.
Donc, ce qui signifie apparemment Confluence. Et c'est publié chez Clark Records. Et il contient cet album deux magnifiques CD qui nous permettent d'entendre une pièce pour violoncelle solo et surtout une trentaine de mélodies juives ou inspirées du judaïsme chantées en hébreu, en yiddish et en français. Et derrière ce récital et la découverte de certains chants que je ne connaissais pas et que je souhaite vivement partager avec vous, il y a un jeune homme qui s'appelle Benjamin Aluni, qui, avec sa voix de ténor, interprète avec subtilité ses mélodies juives, accompagnée par la pianiste Marine Taureau de la Salle et la violoncelliste Lydia Chellet. Et comme par hasard, j'ai le plaisir d'avoir dans ce studio, devinez qui, Benjamin Aluni. Benjamin Aluni, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je suis ravi de vous accueillir. Pour parler de vous, quelques mots, vous avez un parcours de musicien classique, mais parcours qui en lui-même n'est pas tout à fait classique. Quand j'ai lu votre biographie, je me suis dit, oh, ce jeune homme a un chemin extrêmement intéressant parce que très diversifié. Vous avez débuté vos études musicales au sein de l'école maîtrisienne de Grasse. C'est quoi une école maîtrisienne ?
Une école maîtrisienne, ce sont des écoles qui, au départ, ont été créées dans le cadre des cathédrales, donc des écoles qui étaient rattachées au clergé. En l'occurrence, pour simplifier, le matin, c'est un enseignement général, éducation nationale, disons, l'enseignement habituel, et l'après-midi, tourner autour de la musique, en particulier du chant choral. Donc la maîtrise de Grasse, elle, était une maîtrise laïque, mais tous les après-midi, du lundi au vendredi, l'enseignement, c'était surtout du chant choral, des cours de chant, instruments, solfège, et minimum un concert par semaine, des tournées, donc un petit peu comme la maîtrise de Radio France.
Et à partir de quel âge vous avez commencé comme ça?
J'ai commencé à l'âge de 7 ou 8 ans, par là.
Ah oui, donc c'est une véritable vocation. Alors cette vocation donc du chant, vous l'accompagnez également d'un attrait pour la flûte traversière, puisque c'est votre instrument également, instrument avant, comme le chant lui-même, que vous poursuivez notamment au conservatoire de région de Versailles. Puis de la flûte, vous repassez plutôt à la voix, puisqu'en 2005, vous êtes admis en chant lyrique au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Alors, je crois qu'à cette époque, vous êtes passionné de musique baroque. J'ai lu dans votre biographie qu'on vous réclame un peu partout. Vous avez joué, je crois, à Tis.
J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de la reprise d'Atis, donc la production mythique de Jean-François Villégier et de William Christie, qui avait donc été créée en 1987-89, par là, qui avait fait le tour du monde. Et donc, effectivement, en 2011, je ne sais plus, 12, il y a une reprise de cette production. Et c'était donc la première fois où je travaillais avec William Christie, qui m'a proposé un des rôles dans la fameuse scène du sommeil, la scène centrale d'Atis. Donc, une très, très belle expérience.
Alors, vous voyagez à travers le monde avec cette troupe. Vous avez également collaboré avec les Arts Florissants, qui est également un ensemble de musique baroque de réputation mondiale. Et puis, en 2012, patatras, si je puis dire, nouveau changement. Cette fois-ci, vous vous impliquez dans la musique contemporaine, pour laquelle vous créez l'œuvre de plusieurs compositeurs, tels Olivier Mélano, David-François Moreau. Et puis, vous participez à la création de deux œuvres chorégraphiques de Thomas Lebrun, La jeune fille et la mort, créée au Palais de Chaillot en 2012, et Lead Ballet en 2014 au Festival d'Avignon. Et puis, en 2017, vous sortez donc cet album intitulé Confluence, qui n'a pour le coup encore rien à voir avec ce que vous avez fait auparavant. Alors, avant de vous poser la rituelle question « Pourquoi cet album ?», Je vous propose tout de suite d'écouter le début de la dernière pièce de votre album, le célèbre Kaddish de Maurice Ravel, qui appartient au cycle des deux mélodies hébraïques composées en 1914. Et ce morceau a été créé par la cantatrice Madeleine Gray dans sa version orchestrée en 1920. Kaddish de Maurice Ravel, cette sublime mélodie que Ravel avait repris de tout simplement du kaddish qu'on entendait à, sans doute à la synagogue de la Victoire, et qu'il a mis en musique dans une harmonie ravelienne, mais qui sonne tellement bien, un magnifiquement interprété ici donc par Benjamin Aluni, accompagné donc de Marine Thoreau Lassalle, et pas de Lassalle, je l'avais anobli, une très belle interprétation. Alors Benjamin Aluni, donc vous débutez cet album par un kaddish. Alors c'est, vous avez pris en fait le kaddish de Gracian Finzi et vous finissez en fait par le kaddish de Ravel. Pourquoi est-ce que c'est, moi je me suis dit c'est peut-être une référence implicite au cycle de la création où la fin renvoie au début et le début à la fin. Et en plus, je crois que le kaddish, et en particulier celui de Ravel, a joué un rôle important dans la construction de ce disque et peut-être dans votre propre construction identitaire. Alors, expliquez-nous un petit peu la genèse, le bereshit de cet album.
Déjà, tout ce qui vient d'être dit est très vrai. On commence là maintenant par le kaddish de Ravel, qui est effectivement mon point de départ. Cet enregistrement, c'est avant tout le désir de faire se rencontrer en musique. D'un côté, mon intérêt pour la mélodie, donc plus simplement le poème mis en musique, et d'un autre, mon intérêt au sens large pour les cultures juives. Et c'est vrai que le kaddish de Maurice Ravel symbolisait pour moi exactement cette rencontre, ce mélange entre un grand compositeur de tradition française, un compositeur marquant dans l'histoire de notre pays, et puis se dire, mais comment ça se fait que Ravel, qui a priori n'a aucun lien avec le judaïsme, que ce soit culturel, religieux, pourquoi va-t-il puiser son inspiration à cet endroit-là, et en plus, il fait le choix d'un kaddish, qui est quand même un choix assez puissant, symboliquement aussi. Vous parliez tout à l'heure de Madeleine Gray, effectivement, elle est un petit peu en toile de fond de cet album, car elle a créé plusieurs œuvres que l'on retrouve ici. Ravel décide tout simplement d'écrire deux mélodies pour cette grande chanteuse du début du XXe siècle. J'ai fait quelques recherches. A priori, il ne se connaissait pas. Il avait surtout une admiration pour l'interprète et la chanteuse. Et c'est en sortant d'un concert qu'il lui dit « Voilà, j'aimerais écrire des mélodies pour vous ». Elle ne refuse pas. Et apparemment, c'est donc Ravel qui a pris l'initiative d'écrire des mélodies sur ces thèmes. Donc voilà, 1914, c'est le point de départ. Ravel, qui pour moi symbolise exactement ce désir que j'avais. Et je me suis dit, est-ce que d'autres compositeurs en son temps ont une démarche similaire? Peu importe, au final, j'ai envie de dire qu'ils soient juifs ou pas, c'était surtout une volonté de montrer la porosité qu'il y a entre quelque chose de la France et quelque chose des cultures juives au sens large, sachant que j'ai fait le choix d'avoir que des œuvres qui sont des œuvres de concert. Car même les deux kaddish qui sont au programme, donc celui de Ravel ou celui de Gracian Finzi, sont des kaddish qui évidemment pourraient prendre leur place dans un office de la liturgie, mais qui tous deux ont eu la volonté d'écrire ces œuvres destinées au concert. Et c'est vrai que par exemple le kaddish de Maurice Ravel est sans doute sa mélodie la plus donnée dans le cadre de concert.
D'où le titre de votre disque Confluence. En fait, Confluence, c'est tout simplement la rencontre très fertile, d'ailleurs, de ces mélodies juives et ces mélodies françaises, et qui montre fort bien à quel point, en fait, l'apport culturel et la porosité entre ces deux cultures peut donner des œuvres magnifiques comme ce kaddish que nous avons entendu. Alors, donc, dans ce disque que vous nous présentez, on a des compositeurs très connus comme Ravel et des œuvres connues comme ce kaddish, d'autres également connues comme les poèmes juifs de Darius Milhaud. Il y a presque une trentaine de mélodies, donc on aura absolument pas le temps de tout faire entendre, donc je recommande à nos auditrices et auditeurs de se procurer le disque. J'en redonnerai les références à la fin de cette émission. Mais il y a également des compositeurs beaucoup moins connus, avec des œuvres telles que ces poèmes juifs de Paul Martineau, qui ont été écrits la même année, d'ailleurs en 1914, que les mélodies hébraïques de Ravel. Je vous avoue que je ne connaissais pas du tout Paul Martineau, pour cause, il est né en 1890 et mort de la phtisie en 1915, donc il avait à peine 25 ans, en pleine guerre. Qui était Paul Martineau? Comment vous avez retrouvé ses œuvres? En plus, je crois que c'est un premier enregistrement mondial, non?
Il me semble bien. En tout cas, j'ai cherché et bon, j'ai trouvé ses partitions à la BNF. Voilà, je me suis dit, est-ce que d'autres compositeurs, il fallait aller chercher? Donc voilà, en bibliothèque, c'était une des manières de découvrir de la musique. C'est assez curieux parce que donc ce compositeur Toutes ses œuvres ont été éditées après sa mort chez Ricordi, donc quand même une grande maison, et on ne le connaît pas. Il écrit la même année que Ravel ses quatre mélodies juives, et dans ces quatre mélodies, il se trouve qu'il reprend le Kaddish, donc la même mélodie utilisée par Ravel, mais également la même mélodie pour l'énigme éternelle. Donc c'est assez curieux de se dire comment ce compositeur breton se retrouve la même année que Ravel à écrire et à harmoniser les mêmes mélodies. Donc là, il y a...
D'autant plus que les mélodies de Ravel ont été données qu'en 1920, si j'ai bien compris. Donc, ils ne se sont pas du tout concertés.
Alors, elles ont été créées avec orchestre en 1920, d'accord, effectivement, par Madeleine Gray, mais je crois qu'elles étaient déjà entendues, mais qu'elles n'avaient pas remporté un
tel succès.
Non. Il a fallu attendre la version avec orchestre. Donc là, effectivement, il y a une question à laquelle je n'ai pas encore répondu, c'est quel est le lien entre Ravel et Martineau, et voilà, peut-être
vous allez passer encore
choses.
Quelques semaines ou quelques mois à la BNF pour essayer de trouver tout ça, ou à l'Institut européen des musiques juives, on en parlera. Donc sur ces quatre mélodies hébraïques, vous en chantez, je crois, deux, si je ne me trompe pas.
Deux dans l'album, tout à fait.
Deux dans l'album, et je vous propose d'en écouter tout de suite une qui s'appelle Elit Sion, donc de Paul Martineau.
Thank you.
Elysion de Paul Martino, un extrait seulement. Donc si vous voulez entendre le morceau, encore une fois, procurez-vous le disque donc Confluence, publié aux éditions Clarté Records, avec donc Benjamin Aluni, avec sa magnifique voix de ténor, accompagnée par Marine Toro Lassalle au piano. Et ici, nous avions Lydia Chellet, au violoncelle. Il s'agit d'un arrangement, je crois, d'ailleurs, où la partition originale est écrite pour ces trois instruments.
Non, la partition originale est pour piano-voix. Et en fait, j'ai voulu rajouter le violoncelle sur cette œuvre, parce que j'ai trouvé qu'elle s'y prêtait très bien. Et donc, on a travaillé tous les trois pour voir comment on pouvait intégrer le violoncelle. Et donc bah, voilà,
comme ça fonctionne parfaitement.
Oui, bah merci, tant mieux, parce que bon, comme déjà Martino a repris une mélodie préexistante, qui, comme Ravel, il a inventé, créé cet accompagnement. On a eu envie, nous, en 2017, de prolonger ce processus et de proposer une partie du violoncelle en plus. Donc c'est un arrangement de nous trois.
Ben, très, très bel arrangement. Alors, après donc, la découverte de Martino, autre découverte, Elsa Baren, une femme musicienne compositrice, c'est déjà pas courant à cette époque, et donc j'ai découvert, grâce à vous, qu'elle a écrit 4 chants juifs dans votre disque, vous en chantez 3, je crois. Et là aussi, il s'agit d'un premier enregistrement mondial, non ?
Il me semble bien. En tout cas, je n'ai trouvé aucun autre enregistrement.
Alors, qui était Elsa Baren ? Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur elle et son rapport au judaïsme ? Elle était juive, Elsa Baren ?
Alors, Elsa Baren, elle est juive. C'est une résistante très engagée durant la guerre, surtout pour la protection des musiciens et de l'art en général. Elle est également communiste. C'est une femme, j'ai l'impression qu'elle avait un tempérament très fort, une sorte de puissance. Elle a pas mal composé. J'ai eu moi-même des professeurs au conservatoire qui l'avaient eu comme professeur, donc il y a une transmission. Elle a écrit plusieurs chants en français sur des thématiques juives, mais aussi en hébreu, puisque j'ai retrouvé des chants destinés aux enfants sur des textes de Bialik, que j'aurais pu mettre dans le disque, mais bon, malheureusement, ouais, il fallait faire des choix.
Un prochain disque.
Voilà, qui sont très, très beaux et pleins d'humour. Ici, on a ces 4 extraits des 4 chants juifs. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est, voilà, elle reprenait des textes, certains de l'époque médiévale, d'autres 18e, traduits en français, et comment de ces textes anciens, elle en fait des mélodies, et en plus, dans ces mélodies, il y a par moments, surtout dans Le marché du monde, la deuxième mélodie, des couleurs très à mi-chemin entre la chanson ou le cabaret un petit peu par l'accompagnement. Il y a même des petites couleurs Kurt Weill vraiment que l'on retrouve dans le piano. Et voilà, encore là, une porosité entre différents styles, des époques différentes de poèmes. Voilà, c'est vraiment une compositrice qui marque aussi cet enregistrement.
Alors, on va entendre non pas la chanson dont vous avez parlé, emprunt de Kurt Weill, mais on va entendre la chanson du gardien de la vigne. Ça, c'est le texte lui-même, je crois que vous avez dit, nous vient de l'époque médiévale.
Celui-ci, oui. Alors, c'est un texte, celui-ci, qui est anonyme.
Ah, anonyme.
Et qu'on le retrouve également dans les mélodies de Manuel Rosenthal.
Oui, tout à fait.
Donc, voilà, je voulais mettre aussi en avant le fait qu'on a deux fois le même poème et comment deux compositeurs s'en sont emparés de manière différente. Donc, deux propositions de ce même texte.
Alors, on écoute de suite la chanson du gardien de la vigne de Elsa Baren.
Viens, mon âme, viens. Ma fille, ma colombe, ma chérie. Des renards sont là, mon joli, des renards sont là, mon ami. Chasse-les, ma colombe, chasse-les, mon ami. Comment les chasser, mon joli, comment les chasser, mon ami. Avec mon fusil, mon âme, avec mon fusil, ma fille. Mon joli, où est ton fusil, mon ami? Dans ma cabane, mon âme, ma fille. Dans ma cabane, mon âme, ma fille. Où est ta cabane, mon joli? Où est ta cabane, mon ami? Dans ma fille.
la chanson du gardien de la vigne, Elsa Baren. Benjamin Luny, c'est assez étonnant parce que là, on a une compositrice qui est juive, mais qui chante une mélodie qu'on dirait vraiment une mélodie française. Tout à l'heure, on avait des compositeurs non-juifs comme Martino Ravel qui, eux, au contraire, écrivent des mélodies en hébreu. Vous me dites que le texte était à l'origine en hébreu, il était traduit en français, c'est ça?
Oui, parce que on peut le... C'est le... Plutôt, en tout cas, la source des différents textes semble être en hébreu, puisque sur la partition que j'ai, qui est donc une copie d'un manuscrit, il est écrit traduit de.
D'accord.
Donc voilà. Après, ce texte-là en particulier est anonyme. Il est juste écrit « Chanson de Palestine ». Donc on est à ce moment-là dans les années 30.
Mm-hmm.
Voilà, pour les informations.
Ça veut dire qu'en fait, ça n'a pas été publié du tout? Quand vous parlez de manuscrit, ou vous avez eu juste le manuscrit entre les mains?
J'ai vu le manuscrit, j'ai pu reporter la musique et voilà, elle n'est pas éditée.
C'est un véritable travail de recherche que vous avez fait. D'ailleurs, je me rappelle vous avoir rencontré, vous m'aviez écrit il y a, je dirais peut-être 7-8 ans déjà, même peut-être plus que ça, vous faisiez déjà des recherches. Donc c'est un projet longuement mûri, celui de ce disque.
En fait, ce projet remonte à l'époque où j'ai passé mon master en chant lyrique. Donc j'étais étudiant à ce moment-là en Norvège et on m'avait dit « fais un projet vraiment qui te tient à cœur ». Donc c'est ce projet-là qui me tenait à cœur. Et puis ensuite, je suis rentré en France, j'ai laissé ça de côté. Et puis, voilà, il y a eu la possibilité de faire un disque. J'ai voulu que ce soit ce projet-là qui soit enregistré. Donc, j'ai repris mes recherches et j'ai pu agrémenter mon corpus d'œuvres par différentes œuvres que je n'avais pas à l'époque où je vous avais écrit.
Donc, c'est formidable, parce que j'ai vu la genèse un peu de ce projet.
Tout à fait.
Vous m'aviez envoyé même un petit disque à l'époque, je m'en rappelle très très bien. Mais quand on voit le résultat abouti, quel chemin, quel courage pour faire toutes ces recherches. Alors, autre découverte, justement, vous parliez de musique palestinienne, puisque n'oublions pas qu'on est dans les années 30, à l'époque l'État d'Israël n'existe pas, et on va entendre l'œuvre d'une compositrice qui s'appelle Ferdina Shlonsky, et cette œuvre s'appelle « Images palestiniennes ». Alors, quelques mots sur Ferdina Shlonsky que je reprends de votre livret qui est vraiment fort bien fait. Donc, je vous cite. Elle est née en 1905 donc à Kremenchuk, qui est en Ukraine. Elle est morte en 1990 à Tel Aviv. Elle est la sœur du grand poète Abraham Shlonsky et on peut la considérer comme la première compositrice israélienne. Donc, retenez son nom, Ferdina Shlonsky. Sa famille a quitté l'Empire russe en 1921 donc pour gagner la Palestine. Et Ferdina Shlonsky, qui a des dons certains pour la musique, va étudier le piano à Berlin avec Arthur Schnabel et la composition à Paris avec, tenez-vous bien, Nadia Boulanger, Edgar Varèse et Max Deutsch. Ça fait quand même un beau parcours. Elle remporte le prix le Béla Bartók de Budapest avec un quatuor à cordes et elle reçoit, alors il faut le dire parce que rien que le nom de ce prix est intéressant, le prix musical 1930 de l'aide aux femmes de profession libérale. C'est quand même, quand on parle aujourd'hui du statut de la femme, c'est assez extraordinaire comme intitulé de prix. Et donc elle remporte ce prix avec sa mélodie qui s'intitule « Poème hébraïque » sur un poème justement de son frère Abraham. Et cette mélodie va être éditée en 1933 avec 5 autres sous le nom de « Images palestiniennes », tout en hébreu, mais on en a une version en langue française dans la collection de musique juive Mizmor des éditions Salaber, collection qui était sous la direction artistique de Léon Algazi et Vladimir Dick. Donc, je vous propose d'écouter la mélodie « Laila Beknan »,« La nuit à Canaan » de Ferdina Shlonsky.
Thank you.
Laila Birchnan, une nuit donc au pays de Canaan, à Canaan. D'ailleurs, vous prononcez l'hébreu même beaucoup mieux que moi. Birchnan, c'est effectivement comme ça qu'il faut dire. Je suis impressionné d'ailleurs. Je sais que Verdina Shlonsky était polyglotte, mais vous aussi, puisque vous chantez alors avec un accent magnifique en hébreu, en plus prononciation ashkénaze. Oui, c'est ça. Là, en hébreu à l'israélienne.
Oui.
Le yiddish, on va en écouter un yiddish parfait. Enfin, comment vous avez fait pour préparer ce disque et maîtriser toutes ces langues?
Alors, contrairement à Verdina Shlonsky qui, elle, les parle vraiment, moi, je ne parle pas toutes ces langues, donc j'ai vraiment travaillé avec des coachs, pour chacune de ces langues. Donc, il y a eu un grand travail, parce qu'en France, il n'y a pas, comme on l'aurait en France, pour le répertoire français, des personnes qui ont à la fois une culture du chant lyrique, de comment émettre la voix, et en même temps de ces langues-là, il aurait fallu que je parte par exemple en Israël. Donc il y avait tout un travail de prononciation, puis adapter cette prononciation au chant lyrique, parce qu'il y a des paramètres spécifiques.
Donc gros travail de votre part, comme tout ce disque, mais le succès est là, c'est magnifique. On a parlé juste avant, on a évoqué le nom de Léon Algazi, qui a publié cette mélodie en 1933 dans la collection Mizmore. Léon Algazi, homme infatigable, organiste, compositeur, musicologue, homme de radio, et dont le travail a été fondamental pour la diffusion des musiques juives en France, en gros de 1930 à sa mort en 1971. Et votre album, donc, comporte pas moins de 6 de ces mélodies, 6 sur 9, puisqu'il y a un cycle de 6 chansons populaires et de 3 chansons populaires juives. Mmh. Alors, petite curiosité de ma part, je me suis demandé si vous aviez trouvé ces partitions à l'Institut européen des musiques juives, parce qu'on a la chance d'avoir les collections de Léon Algazi ou ailleurs. Dites-nous un peu
d'où
ça vient.
Alors, il se trouve que ces partitions-là, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai retrouvé dans une librairie de littérature juive aux États-Unis une partition d'époque que j'ai pu m'offrir. Donc, il se trouve que j'ai une édition de l'époque de ce cycle-là. En revanche, pour l'autre, ce son, elles me viennent de qui? Je crois une dame qui est à présent décédée, qui avait connu Algazi, qui avait pu me faire des copies de sa partition d'époque. Donc, il y a quelques notations même d'Algazi sur la copie.
Alors, vous auriez pu aussi, comme je disais, les trouver à l'Institut européen des musiques juives sur notre catalogue Rachel, puisqu'on a la chance que donc la famille Algazi, notamment le fils Jacques Algazi, a déposé une grande partie des archives de son père Léon Algazi, une œuvre vraiment à découvrir. Je vous propose donc de la découvrir justement en écoutant 2 chansons populaires en yiddish de Léon Algazi, Yom et Yom, une chanson d'une mère donc, qui demande à sa fille à quoi elle pense et ce qu'elle voudrait. Des souliers? Une robe? Mais non, maman, lui répond la fille, j'ai grandi, ce que je veux, c'est un fiancé. La deuxième chanson s'intitule « Chanson à boire ». Il s'agit d'une mélodie chassidique dont vous allez certainement reconnaître la mélodie qui est fort connue et on va entendre les 2 à la suite.
Yom, yom, zing, mirali, dere, vos, tos, mei, dere, vi, vos, mei, dere, vi, la, bor, schich, dere, hoben, af, men, gem, dem, schuss, der, sorgen, nein, mamische, nein, du kennst mich nicht, verstehen, du weißt nicht, was ich mein. Yom, yom, zing, mirali, dere, vos, tos, mei, dere, vi, vos, mei, dere, vi, la, kosti, mirali de le vosta spei de le vi, da spei de le vi na hossen den hoben, af men gen dem schatren sorgen. Jo, mabische jo, du kennst mich schon verstehen, du weißt schon, was ich mein.
D'entendre successivement Yom et Yom et une chanson à boire. Alors, vous me disiez hors micro, justement, Benjamin Louny, que Yom et Yom vous avez rencontré lors de votre dernier concert qui a été donné le 7 décembre au magnifique théâtre de l'Athénée à Paris, un célèbre musicologue, en l'occurrence Simra Aram, que nous connaissons bien, un grand monsieur, qui vous a dit, un peu ému, que sa mère lui chantait en yiddish cette chanson.
Enfant, oui.
Enfant, donc ça c'est toujours assez émouvant. On salue Simra au passage. Et puis alors cette deuxième chanson, beaucoup plus entraînante, cette chanson à boire, en fait c'est un thème qui est ultra connu en yiddish. Vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cette chanson, parce qu'elle a un parcours très très particulier. Je crois qu'elle vient d'Ukraine, on la connaît alors Der Rebbe at Gerhausen, ou alors on la connaît aussi sous le titre Yoshke Yoshke, je ne sais pas si vous connaissez ce titre-là. Elle a plusieurs titres. Et elle a fait plusieurs parcours. Je crois qu'elle a été même reprise par une chanteuse très connue à l'époque, dans les années 50.
Ah oui, apparemment...
René Lebas.
Tout à fait. En travaillant avec mon coach de yiddish, Yitzhak Niborski, il m'a dit « Ah, mais je connais cette chanson ». Et effectivement, plusieurs pièces dans le disque ont des itinéraires un petit peu particuliers. Et je crois même que on a pu l'entendre dans des opérettes en yiddish avant-guerre. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'elle a voyagé. Et puis bon, bah, là on a un compositeur dans un langage assez à moitié classique, à moitié populaire, folklorique, qui s'en empare et fait ce nouvel arrangement.
Et René Lebas, pour juste dire à nos auditeurs, si vous écoutez sa chanson, qui est une des chansons peut-être les plus connues de René Lebas, qui s'appelle « Tire, retire l'aiguille », c'est exactement la même mélodie, « Tire, retire, retire l'aiguille, à ma fille ». Alors c'est amusant qu'on retrouve encore une fois ce passage, toujours entre le yiddish, le français, comment les compositeurs s'approprient finalement des mélodies, et puis la langue est interchangeable, mais la musique est universelle.
Tout à fait.
Alors, j'ai été un peu surpris aussi de voir dans votre disque une pièce de Arthur Honegger. Alors, je ne savais pas qu'Arthur Honegger avait écrit des pièces en hébreu. Arthur Honegger est né en Suisse. Il est protestant.
Il est suisse, mais il est né au Havre. Mais
il est d'origine suisse.
Voilà,
pardon.
C'est ça.
Donc,
il est protestant.
Mais vous avez mis dans le livret en version originale. Ça veut dire que la version était chantée comment, cette mélodie Reinu Amalenu, elle est comment?
C'est-à-dire que j'ai entendu un enregistrement par des chanteurs, par un groupe de musique juive des États-Unis qui ont pu interpréter cette œuvre, mais ils avaient fait un arrangement. Donc là, c'est la première fois qu'elle est vraiment telle que Honegger l'a éditée. Elle n'est pas dans son catalogue d'œuvres. Sa dernière mélodie, il faut quand même savoir, en 1947, sa dernière mélodie qu'il a pu écrire, c'est Mima Amakim.
Ah,
donc en hébreu.
De profundis en latin.
Tout à fait.
Des profondeurs. Ouais.
Cette œuvre aussi a un itinéraire un peu particulier. C'est sans doute parce qu'il est très ami avec Millau qui prend part à ce projet. Au début du XXe siècle, il y a de nombreux juifs, surtout russes et polonais, qui partent donc à l'époque en Palestine, qui construisent, qui font les premières plantations, qui construisent des maisons, etc. Donc un travail très manuel au quotidien. Et donc pour se donner du courage, ils inventent des textes, ils écrivent des textes, inventent des musiques. Ces musiques vont être écrites sur des cartes postales, donc des cartes postales musicales, et elles seront ensuite envoyées à travers l'Europe pour qu'on sache que ces pionniers d'Israël ont écrit ces musiques. Il y a un musicologue dans les années 30, berlinois, qui s'appelle Hans Nathan, qui rassemble ces cartes postales musicales, les envoie à des grands compositeurs de son époque, dont Honegger, Millau, mais d'autres, Volpe, Schoenberg en font partie, pour harmoniser ces mélodies donc des pionniers d'Israël dans leur langage musical à eux. Et donc j'ai pu me procurer ce catalogue de mélodies réharmonisées par ces grands compositeurs, et j'ai fait le choix de mettre les compositeurs qui étaient francophones, puisque c'est le thème du projet de mon disque. Donc il y en a deux de Millau et celle-ci de Honegger.
Très intéressant, vraiment. Alors on va avancer parce que le temps passe, et je vous propose de découvrir, toujours grâce à vous, l'œuvre de Manuel Rosenthal. Alors Manuel Rosenthal est né à Paris en 1904 et mort en 2003. Il a eu une longue vie. Il était l'élève de Maurice Ravel, chef de l'Orchestre National. Il a mené de front donc une double carrière de chef d'orchestre et de compositeur. Ses œuvres ont rencontré un vif succès. Et en 1929, à l'âge de 25 ans, il compose donc les 5 chansons juives sur des textes traditionnels en français qu'il dédie à sa mère. Et je vous propose d'écouter donc une bacchanale extraite donc de ce cycle des 5 chansons juives.
En celui qui l'a créé. Que tous les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'il ouvre son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Oh,
Bacchanal de Manuel Rosenthal, extrait du cycle des 5 chansons juives, composé en 1929, et cela nous vient toujours du CD Confluence, paru aux éditions Clarté Records en 2017. Alors Benjamin Alouni, nous avons entamé cette émission symboliquement avec le célèbre Kaddish de Ravel, et nous allons la conclure toujours aussi symboliquement avec un autre Kaddish, celui d'une compositrice contemporaine, il s'agit de Gracian Finzi. Alors cette œuvre a été écrite, je crois, il y a 3-4 ans, pas plus.
En 2009.
2009, donc oui. Le temps passe plus vite que je ne le pensais. Oui. Un superbe Kaddish, écrit, je crois, pour piano et violoncelle, là dans sa version originale, ou c'est vous qui avez fait également le...
Ah non, non, Gracian l'a composé pour piano, voix et violoncelle. Et c'est une commande, en fait, d'un étudiant qui était dans la même promo que moi au Conservatoire de Paris, qui est marocain, musulman,
ça, c'est très
et
beau
qui
aussi,
avait ouais. dit à Gracian, qui était son professeur, j'aimerais que tu m'écrives un Kaddish. Et il a fait son, je me souviens très bien, il s'appelle Abdel Al-Asri, donc un magnifique ténor. Et il a commencé son prix pour le diplôme de chant par ce Kaddish.
Donc c'est un symbole très très beau également. Donc je vous propose d'écouter tout de suite ce Kaddish de Gracian Finzi.
Oh.
le début du Kaddish de Gracian Finzi. Encore une fois, je vous invite à écouter ce Kaddish dans son intégralité, une œuvre magnifique. Mais malheureusement, nous devons terminer là notre émission, Benjamin Aloni. Vraiment, vous nous avez fait passer un moment fort agréable. Encore une fois, félicitations pour ce très très beau travail, à la fois de recherche, travail vocal, travail linguistique, travail musicologique. On souhaite une longue vie à ce disque et à votre carrière. Je vous remercie infiniment au nom de tous les auditeurs et auditrices de nous avoir fait donc découvrir ces trésors de la mélodie juive et française, de nous avoir montré aussi à quel point la rencontre de ces deux cultures, française et juive, peut être fertile pour chacune d'entre elles. Donc j'invite nos auditrices et auditeurs à se procurer votre double album qui s'intitule Confluence, publié aux éditions Clark Records en 2017. Alors vous trouverez cet album soit chez l'éditeur, soit à la FNAC ou même également sur le site de l'Institut européen des musiques juives. Je vous en rappelle l'adresse, www.iemj.org. Vous y trouverez un article avec des extraits que vous pourrez entendre et un lien pour vous procurer le disque. Vous pourrez également sur ce même site réécouter cette émission ainsi que toutes les précédentes, ainsi bien sûr que sur judaïquefm.com dans la rubrique podcast. Au micro, Hervé Roten, David à la technique. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique, bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm